Mark Twain, la télégraphie mentale. Mai 78. Il vient de m'arriver un de ces événements insignifiants qui étonnent et vous laissent rêveur au moins pendant quelques heures. Une de ces coïncidences que notre esprit ne peut définir et qui restent sans explication. En voici un exemple. Je suis obligé de reconnaître que le fait est d'importance médiocre. Il y a quelques jours, je pensais en moi-même, Frank Millet ignore certainement que nous sommes en Allemagne. Sans cela, il nous aurait écrit depuis longtemps. Voilà 6 semaines que je suis chaque jour sur le point de lui envoyer un mot, et je remets toujours au lendemain pour voir si je ne recevrai rien de lui. Mais maintenant, je suis décidé à lui écrire. Ainsi dit, ainsi fait, et j'adressais ma lettre à Paris en faisant cette réflexion. Oh, certainement, nous aurons de ces nouvelles avant que cette lettre ne soit à 50 miles d'Heidelberg. Le contraire m'étonnerait beaucoup. Mais voici précisément le hic. Pourquoi les faits se passent-ils ainsi? C'est là l'énigme. Nous parlons toujours de lettres qui se croisent et nous considérons ce fait comme un accident ordinaire de la vie. Mais en l'appelant accident, nous faisons une erreur grossière. Certainement, nous avons 12 fois par an le pressentiment que la lettre que nous écrivons croisera la réponse que nous destine la même personne. Et si le lecteur veut bien fouiller dans sa mémoire, il reconnaîtra que cette intuition a eu souvent assez de force pour l'amener à n'écrire qu'un simple billet laconique, parce qu'il préférait ne pas perdre son temps à rédiger une épître qui devait se croiser avec la réponse attendue. Je crois que, pour ma part, cette intuition m'est venue lorsque, dans certains cas, j'avais remis une lettre au lendemain avec l'espoir que mon correspondant m'écrirait. Donc, pour en revenir à ma première histoire, j'avais attendu 5 ou 6 semaines, puis j'écrivis 3 lignes à Millet, pressentant qu'une lettre de lui croiserait la mienne. C'est ce qui advint. Il écrivit le même jour que moi, et nos lettres se croisèrent. La sienne alla à Berlin, adressée au ministère d'Amérique qui me la fit parvenir. Millet me disait que depuis 6 semaines, il avait vraiment cherché quelqu'un qui connût mon adresse en Allemagne, et finalement il s'était dit qu'une lettre adressée à l'ambassade à Berlin me serait peut-être renvoyée. Peut-être faut-il attribuer à une simple coïncidence qu'il se soit décidé à m'écrire au moment où j'allais en faire autant de mon côté. Cependant, je ne le crois pas. Ce qui m'a le plus exaspéré à cette occasion a été certainement de perdre un temps précieux en attendant que Millet m'écrive, puis de penser que j'allais me mettre à mon bureau au moment précis où mon correspondant s'asseyait devant le sien pour m'adresser une lettre qui devait se croiser avec la mienne. Et pourtant, il faut écrire tout de même. Car si vous quittez votre bureau et remettez au lendemain, l'autre en fait autant de son côté. Il semble que vous soyez solidaires l'un de l'autre, comme l'étaient les frères siamois dans leur mouvement combiné. Quelques mois avant mon départ, un fournisseur de New York fit chez moi une installation qui ne me parut pas réussie. Lorsque vint la note, j'écrivis que je paierais lorsque le travail serait complètement terminé. On me répondit que, pour le moment, on était débordé, mais que, dès que ce serait possible, on m'enverrait un ouvrier habile pour tout mettre au point. J'attendis plus de 2 mois, supportant avec patience des sonnettes qui carillonnaient souvent sans qu'on y touchât, et qui à d'autres moments restait muette malgré mes appels désespérés. Plusieurs fois je voulus écrire et chaque fois je remis. Mais un beau jour je me décidai et déversai ma bile sous forme d'une lettre bien sentie. Puis je m'arrêtai subitement, convaincu qu'au magasin on commençait à penser à moi. Lorsque le lendemain matin je descendis déjeuner, le facteur n'avait pas emporté ma lettre, mais l'électricien était venu avait fait son travail et disparu. Il avait reçu des ordres la veille au soir et était venu par un train de nuit. Si c'est une coïncidence, il a eu en tout cas fallu 3 mois pour lui permettre de se réaliser. L'année dernière, arrivé à Washington un soir, je descendis à Harrington Hotel et gagnai ma chambre. Je lus et fumai jusqu'à 10 heures. Puis, n'éprouvant aucune envie de dormir, j'eus l'idée de prendre l'air. Je sortis, malgré la pluie, et j'errai à travers les rues en goûtant tout le plaisir de l'inconnu. Je savais que mon ami Memo habitait la ville et j'avais le désir de le rencontrer. Mais je ne pouvais songer à le trouver à cette heure avancée, d'autant plus que j'ignorais son adresse. Vers minuit, les rues étaient si désertes que j'eus l'impression de la solitude. J'entrai alors dans un bureau de tabac, assez loin dans l'avenue, et j'y restai environ un quart d'heure à écouter quelques énergumènes qui parlaient politique. Tout d'un coup, sous l'effet d'une inspiration subite, je me dis « Bon, je vais sortir d'ici, tourner à gauche, et après avoir fait 10 pas, je rencontrerai mon ami Yo. » Ce que j'avais présumé arriva. Je ne vis pas son visage, caché par son parapluie et dissimulé par l'obscurité, mais je reconnus sa voix lorsqu'il interrompit son compagnon de promenade, et je l'arrêtai net. Ma sortie et ma rencontre avec M. O pourraient paraître choses naturelles, mais avoir pressenti cette rencontre, voilà certes le plus curieux. En y réfléchissant, le fait est singulier. J'étais au fond du bureau de tabac lorsque je formulais ma prophétie. Je sortis et fis 5 pas derrière la porte. Je l'ouvris, je fermai derrière moi, je descendis 3 marches, tournai à gauche, refis 4 ou 5 pas et me trouvai nez à nez avec mon individu. Je répète que la chose en elle-même n'a rien de surprenant, mais seul le côté bizarre est d'avoir pressenti cette rencontre. J'en ai souvent cassé du sucre sur le dos des absents et découvert ensuite, à ma grande confusion, que je parlais devant leurs parents, que je suis devenu superstitieux à ce sujet et que maintenant je tiens ma langue. On se sent si bête après une gaffe de cette espèce. Constamment, nous parlons de gens qui, au même instant, surgissent devant nous. Nous rions en disant « lorsqu'on parle du loup, enfin, etc. » Nous n'y faisons plus attention et ne voyons là qu'une simple coïncidence. C'est une manière commode de donner une solution à un problème grave et complexe et de mettre cette particularité sur le compte d'une coïncidence banale. J'arrive maintenant à la chose la plus singulière qui me soit arrivée. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais couché paresseusement un matin. C'était le 2 mars, lorsque, subitement, une idée me traversa l'esprit et s'y implanta avec une telle insistance que toutes mes autres pensées s'évanouirent devant elle. Cette idée, accapareuse de mon cerveau, semblait simple au premier abord. Je pensais tout uniment qu'il était temps de préparer un livre à mettre en vente, un livre sensationnel qui offrirait un intérêt particulier pour le public. Il s'agissait d'un livre sur les mines d'argent du Nevada. Le Great Bonanza était la grande merveille actuelle et tout le monde en parlait. Il me semblait que nul ne serait plus autorisé à traiter ce sujet que Mr. William Hatch Wright, journaliste de Virginia, Nevada, sous la direction de qui j'avais écrit pendant de longs mois comme reporter il y a 10 ou 12 ans. Était-il mort ou vivant? Je l'ignorais, mais à tout hasard, je lui écrirais. Je commençai par lui suggérer timidement l'idée d'écrire un livre, puis je m'enhardis et me hasardai à lui indiquer ce qui, à mon avis, devait être le plan de l'ouvrage. Enfin, je lui demandai d'excuser mon outrecuidance en le priant de n'y voir que de très bonnes intentions d'un ami. Je lui fournis force détails, lui indiquant même l'ordre dans lequel il pourrait les relater. J'étais sur le point de mettre mon élaboration sous enveloppe, lorsque je réfléchis que si aucun éditeur ne voulait publier ce livre suggéré par moi, je serais fort contrarié. Et je me décidai à garder ma lettre jusqu'à ce que j'aie l'acceptation d'un éditeur. Je serrai donc mon document dans mon bureau et j'adressai un mot à mon éditeur, lui demandant de m'indiquer un jour pour un rendez-vous d'affaires. Comme il était en voyage, mon mot demeura sans réponse et au bout de 3 ou 4 jours, je perdis mon affaire de vue. Le 9 mars, le facteur m'apporta plusieurs lettres. Parmi elles, j'en trouvai une plus lourde que les autres et dont l'écriture m'était à peine connue. Je ne découvris pas tout d'abord d'où elle venait, mais j'eus comme un pressentiment et je dis à un parent qui se trouvait là « Vous allez assister à un miracle. Je vais vous exposer tout le contenu de cette lettre, date, signature, tout en un mot, et cela sans briser le cachet. » Elle est d'un monsieur Wright de Virginia, Nevada, et datée du 2 mars, c'est-à-dire qu'elle remonte à 7 jours. Monsieur Wright me propose d'écrire un livre sur les mines d'argent du Bonanza et me demande mon opinion en vrai ami. Il expose son sujet, l'ordre et la suite de ses détails, et annonce qu'il finira par un historique sur l'avenir de Great Bonanza. C'est même le sujet principal du livre. Je décachetai la lettre et montrai l'exactitude de ce que j'avais annoncé. La lettre de Mr. Wright contenait tout ce que contenait la mienne, écrite le même jour. Seulement, cette dernière était restée dans mon bureau depuis une semaine, depuis le 2 mars. Il n'y a aucune extra-lucidité là-dedans. Si nous voulons bien donner à ce mot la vraie signification qui lui appartient. En effet, le voyant se flatte de percevoir réellement l'écriture cachée et de la lire mot pour mot. Ce n'est pas mon cas. Je savais seulement le contenu de la lettre, j'en connaissais tous les détails ainsi que l'ordre dans lequel ces détails étaient présentés, mais il me fallait encore les exposer moi-même, les traduire, pour ainsi dire, du langage de Wright dans la mienne. La lettre de Wright était celle que j'avais écrite sans l'envoyer et était bien identique quant à la substance. Et sans aucun doute, nous n'étions pas en présence d'un simple accident et je prétends que des coïncidences aussi complètes ne peuvent se produire. Le hasard aurait pu expliquer un ou deux faits isolés, mais pas une continuité de faits aussi soutenue. À n'en pas douter, l'esprit de M. Wright avait été en communication immédiate et directe avec le mien, à travers 3 000 lieues de montagne et de désert dans la matinée du 2 mars. Je n'en conclus pas que nos deux esprits engendrèrent en même temps cette succession d'idées, mais que l'un d'eux conçut et la télégraphia, tout simplement, à l'autre. Curieux de savoir quel cerveau avait influencé l'autre, j'écrivis pour tirer l'affaire au clair. La réponse de M. Wright démontra qu'il avait conçu le plan, que mon cerveau n'avait été que l'appareil récepteur. Partant de cette constatation, vous comprendrez aisément combien d'idées géniales ont pu être volées inconsciemment à des distances de 3 000 lieues et plus. Si l'on admet cette hypothèse, il suffit d'étudier l'encyclopédie pour rencontrer une fois de plus, dans l'histoire des inventions, des causes et coïncidences bizarres qui ont toujours frappé les esprits clairvoyants, on sera frappé de la fréquence avec laquelle une machine ou une invention quelconque a été imaginée simultanément par plusieurs personnes sur différents points du globe. Le télégraphe électrique a été méconnu pendant plusieurs milliers d'années, puis il a été découvert en même temps par un Américain, le professeur Henry, par l'Anglais Winston, par Morse sur mer et par un Allemand à Munich. La manière d'utiliser la vapeur a été trouvée la même année dans deux ou trois pays. N'est-il pas admissible, alors que les inventeurs se volent constamment et inconsciemment leurs idées, quoique séparées par des milliers de lieues? Au printemps dernier, un littérateur de mes amis, M. D. Howells, qui demeurait à 100 lieues de moi, vint me voir et, au cours de la conversation, il me raconta qu'il venait de faire une découverte, d'arrêter son esprit sur une idée nouvelle qui n'avait certainement jamais été exploitée en littérature. Il me l'expliqua. Je lui tendis alors un manuscrit et lui dis qu'il y trouverait en substance la même idée. J'avais écrit le manuscrit 8 jours avant. L'idée m'était venue à l'esprit à l'automne précédent, tandis que mon ami ne l'avait conçue qu'au moment où je la transcrivais, il y a de cela 8 jours. Il n'avait pas encore commencé son travail, de sorte qu'il abandonna son projet et me laissa très gracieusement la paternité de ladite idée. L'exemple suivant que j'ai trouvé dans un journal est véridique. Je tiens le fait de la bouche de M. Howells au moment où l'épisode a eu lieu. On relate un fait étonnant de coïncidence littéraire dans la revue Atlantic Monthly de Mrs. Howells. Une dame de Rochester, New York, soumit à la revue qui publiait la nouvelle Dr. Brin Practice un manuscrit qui ressemblait tellement à celui de M. Howells que celui-ci crut nécessaire d'aller la trouver pour lui expliquer qu'il ne s'agissait nullement d'un cas de plagiat. Il lui montra les brouillons de sa nouvelle et lui prouva que la similitude entre leurs écrits était due à une de ces coïncidences étranges qui se rencontrent de temps à autre dans le monde littéraire. J'avais lu moi-même des extraits de la nouvelle de M. Howells dans son manuscrit avant que la dame n'ait remis le sien à la revue. Voici un autre exemple tiré d'un journal. La réédition de la nouvelle de Miss Alcott, Moots, rappelle à un collaborateur de la Poste de Boston une singulière coïncidence qui fut mise en lumière avant que le livre ne parût pour la première fois. Miss Anna Crane de Baltimore publia un roman intitulé Emily Chester qui offrait au lecteur des particularités frappantes et caractéristiques. La comparaison entre cet ouvrage et Moots montra que les deux auteurs, complètement étrangers l'un à l'autre, vivant à des centaines de lieues de distance, avaient tous les deux choisi le même sujet et développé les mêmes idées jusqu'à un certain point, puis, le parallèle cessant, les conclusions divergeaient. Et détail plus curieux encore, les principaux héros portaient les mêmes noms dans les deux romans, de sorte que Miss Alcott dut changer les noms de ses personnages. Après cela, le livre fut publié par Loring. À ma souvenance, j'ai vu ici 4 ou 5 conflits violents éclater dans un journal littéraire à propos de poèmes dont la paternité était revendiquée par 2 ou 3 personnes à la fois. Il y a eu discussion au sujet de « Nothing to Wear », Beautiful Snow et Rock Me to Sleep, Mother, est l'une des premières ballades de M. William Carlton, je crois. Ces conflits étaient tout bonnement attribuables à des cas de télégraphie mentale, involontaire et inconnue. Encore un mot sur M. Wright. Il avait son livre en tête depuis quelque temps, donc c'est lui et non moi qui ont conçu l'idée. Le sujet m'était complètement étranger quand je préparais tout autre chose. Et cependant, cet ami que je n'avais pas vu, et auquel j'avais à peine pensé depuis 11 ans, avait le pouvoir de m'infiltrer ses idées à 3 000 lieues de distance et d'exercer une sorte d'accaparement mental de mon cerveau. Il s'était mis à écrire après avoir terminé son travail de journaliste un peu après 3 heures, me dit-il. Or, 3 heures à Nevada représentaient 6 heures à Hartford, et c'est à ce moment précis que je rêvassais dans mon lit sans fixer autrement ma pensée. C'est à ce moment-là que l'idée d'écrire ce livre se présenta à mon esprit. Je me levai alors et me mis à écrire, croyant fermement que j'agissais sous la propre impulsion de ma volonté. Je n'ai jamais assisté à aucune expérience mesmérienne ou de double vue, ni à aucune séance de spiritisme qui fût pour mon esprit convaincante. Le fait est d'ailleurs sans importance, seulement je suis obligé de reconnaître qu'un esprit humain, incarné, peut communiquer avec un autre, quelle que soit la distance, et sans aucune préparation artificielle destinée à créer un état sympathique favorable à la transmission. J'estime que lorsque l'état sympathique existe entre deux esprits, ils peuvent communiquer. Autrement, ce doit être impossible. Et si la sympathie est entretenue par des relations suivies, les deux esprits peuvent continuer à correspondre pendant un temps illimité. Je vous cite un autre phénomène que tout le monde a pu remarquer. Tout d'un coup, une série de pensées ou de sensations nous envahit, et vous êtes obsédé par l'idée qu'autrefois, dans une existence antérieure, vous avez éprouvé ces mêmes sensations et conçu les mêmes idées. L'hypothèse de l'existence antérieure est très vraisemblable, mais je reste persuadé qu'elle ne constitue pas la solution de ce mystère ardu. Je suis convaincu que, dans ce cas, un étranger très éloigné vous a télégraphié mentalement, et à votre insu, ses pensées, ses sensations. Cette transmission s'est arrêtée lorsqu'un courant contraire ou un obstacle quelconque est venu s'interposer et couper le fil de communication. Peut-être croyez-vous que ces idées et ces sensations sont une répétition. Dans ce cas, elles ne deviennent une répétition qu'au moment où elles vous sont communiquées. Il est possible que M. Brown, le voyant, lise dans le cerveau d'autrui. L'hypothèse contraire est également admissible. En tout cas, je sais de sources certaines qu'il m'est arrivé de lire dans l'esprit d'autrui. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi M. Brown n'en ferait pas autant. J'ai écrit ce qui précède il y a 3 ans à Heidelberg, et j'ai mis de côté mon manuscrit en me proposant d'y intercaler des exemples de télégraphie mentale à mesure qu'il se présenterait à moi. Et pendant ce temps, le croisement des lettres est devenu si fréquent qu'il en est presque monotone. Aussi ai-je mis à profit mes observations relatives à ces coïncidences. Et maintenant, lorsque je suis là d'attendre des nouvelles de quelqu'un, je m'assois et le force à m'écrire, qu'il le veuille ou non. C'est-à-dire que je lui écris, puis je déchire ma lettre sans la faire partir. Oh, cela suffit amplement, et les nouvelles de ce quelqu'un ne tardent pas à m'arriver. Bien entendu, je suis devenu superstitieux au sujet de ces croisements de lettres. C'est du reste bien naturel. Nous sommes restés un peu de temps à Venise après avoir quitté Heidelberg, et un jour je descendais le grand canal en gondole lorsque j'entendis un cri derrière moi. Je me retournai pour voir ce qui se passait, et j'aperçus une gondole qui suivait la mienne en faisant force de rame. Le gondolier m'invita à m'arrêter. Je stoppai, et le petit bateau vint se ranger auprès du mien. Il y avait dedans une Américaine fixée à Venise. D'un air très préoccupé, elle me dit: Il y a à l'hôtel Britannia, depuis 8 jours, un Américain de New York et sa femme, qui sont désespérés de n'avoir pas reçu de nouvelles de leur fils, dont ils ne savent rien depuis 8 mois. Oh, la mère en est malade de chagrin, et le père ne peut ni manger ni dormir. Le fils arrivé à San Francisco il y a 8 mois leur a écrit le même jour. C'est tout ce qu'ils en savent. Ses parents sont en Europe depuis ce temps, mais leur voyage s'effectue dans des conditions très tristes, car ils ne font que changer de place, écrire de tous les côtés à tout le monde pour demander des nouvelles de leur fils. Mais le mystère reste aussi obscur. Maintenant, le père a renoncé à décrire et veut télégraphier. Il veut câbler à San Francisco. Il ne l'a jamais fait parce qu'il a peur. Il ne sait trop de quoi, de la mort de son fils, sans doute. Mais il voudrait que quelqu'un lui conseillât de télégraphier. Il voudrait que je l'y engageasse. Je ne l'ose pas, car si aucune réponse ne venait, sa femme en mourrait certainement. Alors j'ai couru après vous pour vous prier de m'aider à l'exhorter à la patience et attendre une semaine ou deux avant de télégraphier. Allez, venez, ne perdons pas de temps. Il y a de la vie de cette pauvre femme. Je la suivis, mais j'avais mon idée bien arrêtée. Et lorsque je fus introduit auprès du monsieur, je lui dis: Je suis très superstitieux et je ne vois pas de mal à cela. Si vous voulez câbler à San Francisco tout de suite, vous aurez des nouvelles de votre fils avant que 24 heures ne soient écoulées. Je ne sais si elles viendront de San Francisco ou d'ailleurs. La seule chose urgente est de câbler, voilà tout. Les nouvelles arriveront immédiatement. Télégraphiez à Pékin, si vous voulez, là n'est pas la question. L'absence de nouvelles vient de ce que nous n'avons pas câblé dès que nous avons eu l'idée. Il me semble absurde que ce monsieur ait été réconforté par ce raisonnement enfantin, mais il le fit réellement. Sa physionomie s'éclaira et il envoya son câblogramme. Le lendemain, à midi, arrivait une longue lettre de son fils qu'il croyait perdu. Le pauvre père me témoigna autant de reconnaissance que si j'avais été pour quelque chose dans la venue de ce message. Son fils avait quitté San Francisco par le premier bateau venu et sa lettre avait été écrite du premier port où il avait touché quelques mois après. Cet incident ne signifie rien, il n'a aucune valeur. Je ne le relate que pour prouver combien est invétérée en moi la superstition que m'inspire le croisement des lettres. J'étais si sûr que le télégramme adressé n'importe où irait au-devant de la lettre attendue que je n'ai pas hésité à consoler cet homme découragé et à lui rendre l'espoir et la gaieté. Voici encore 2 ou 3 incidents qui me viennent à l'esprit à propos de télégraphie mentale. Un lundi matin, il y a de cela 1 an, je pris une lettre au hasard dans le courrier et je dis à un ami: Sans ouvrir cette lettre, je vous raconterai ce qu'elle contient. Elle est de Madame de... Cette dernière me dit qu'elle était à New York samedi dernier, qu'elle se proposait de venir ici par le train de l'après-midi pour nous faire une surprise, mais qu'au dernier moment, elle a changé d'avis et est rentrée chez elle. J'avais raison. Mes prévisions étaient parfaitement exactes. et cependant aucun indice ne pouvait me faire supposer que Madame X venait à New York ou qu'elle avait eu le moindre envie de nous faire une visite. Je fume beaucoup, c'est-à-dire tout le temps, et depuis 7 ans j'ai essayé de cacher une boîte d'allumettes à ma portée, derrière un cadre sur la cheminée. Mais j'ai dû l'ôter de là car Georges, le nègre, qui prépare les feux et allume le gaz, se sert toujours des allumettes sans les remettre en place. Conseils et ordres, rien n'y fait, cela dure depuis 7 ans. Un jour de l'été dernier, tandis que toute ma famille s'était absentée pour plusieurs mois, je dis à une personne de la maison, « Eh bien, pendant ces longues vacances où rien ne viendra vous gêner, je puis finir votre phrase, répondit-elle. Voyons, faites-le. Georges devrait bien prendre l'habitude de laisser ses allumettes en place. » C'était précisément ce que j'allais dire. Et cependant, jusqu'alors, ni Georges ni les allumettes ne m'étaient venus à l'esprit depuis 3 mois. D'autre part, il est certain que cette partie de phrase que j'allais énoncer n'avait aucun rapport avec ce que je vais dire ensuite. Ma mère, elle vivait encore lorsque ces lignes furent écrites, descend du plus jeune des frères Lambton qui se sont établis ici voilà bien des années. La tradition raconte que l'aîné hérita d'une grande propriété anglaise, érigée depuis en comté, et qu'il mourut. C'est ce qui est toujours arrivé dans ma famille. Ils meurent tous, tandis qu'ils pourraient faire quelque chose d'utile sans être obligés de travailler. Les deux Lambton laissèrent beaucoup de petits Lambton derrière eux, et lorsqu'enfin, il y a une 50aine d'années, la propriété anglaise fut érigée en comté, la nombreuse tribu des Lambtons américains, c'est-à-dire les descendants de l'aîné, commença à s'agiter. Depuis cette époque, ses descendants se démènent inutilement pour arriver à faire valoir leurs droits. Le véritable comte actuel, je veux dire l'américain, m'écrivait de temps en temps et essayait de m'intéresser à cette question brûlante de titre de propriété en m'offrant une part de son futur butin. Mais j'ai toujours agi de manière à éviter les tentations. Eh bien, un jour de l'été dernier, j'étais couché sous un arbre, ne pensant pas à grand-chose, lorsqu'une idée me vint à l'esprit. Je dis à quelqu'un de la maison, « Supposez que je vive jusqu'à 82 ans, que je devienne sourd, aveugle, édenté, et qu'au moment de rendre le dernier soupir sur mon lit de mort... « Attendez, laissez-moi finir votre phrase, » interrompit l'autre. « Allez, lui dis-je. » Quelqu'un se précipite avec un papier, s'écrie « Tous les autres héritiers sont morts, vous êtes comte de Ham. » C'était juste ce que j'allais dire. Et pourtant, jusqu'à ce moment, jamais cette idée ne m'était venue à l'esprit. Il y a quelques années, j'aurais été stupéfait d'une chose pareille, mais je n'en étais plus à m'étonner de particularités qui m'arrivaient couramment chaque semaine, et je suis bien convaincu maintenant qu'un cerveau peut communiquer clairement avec un autre sans l'aide du véhicule lourd et lent de la parole. Ce siècle paraît avoir épuisé presque toutes les inventions. Cependant, il reste encore une à exploiter, c'est la phrénophonie. Elle consisterait à trouver une méthode permettant à deux esprits d'établir une communication mentale entre eux à l'aide de la volonté. Cette communication serait en quelque sorte codifiée comme le télégraphe électrique. Le télégraphe et le téléphone vont devenir trop lents et trop verbeux pour nos besoins. Il faut que notre pensée puisse franchir les distances, quitte à la transformer en parole si cela devient nécessaire. En tout cas, nous réserverions cette besogne ennuyeuse pour nos moments perdus. Il est évident que la force qui transmet notre pensée d'un cerveau à un autre revêt une forme plus fine et plus subtile que l'électricité. Nous devons tout d'abord chercher à nous rendre maîtres de cette force et essayer de la capter comme nous avons dû le faire pour les courants électriques. Avant l'invention du télégraphe, pas un de ces phénomènes ne semblait plus facile à expliquer que la transmission de la pensée. Pendant que j'écris ceci, il y a certainement quelqu'un sur un autre point du globe qui en fait autant. La question se résume à ceci: lequel des deux inspire cette pensée à l'autre? À cela, je ne puis répondre. Mais je reste persuadé que toutes les idées ont traversé un autre cerveau pendant tout le temps qu'elles m'ont absorbé. Je terminerai par une observation que j'ai trouvée il y a quelque temps dans le Johnson de Boswell. Le Candide de Voltaire est absolument identique comme plan et conception à Rasselas de Johnson. Il l'est à tel point que j'ai entendu dire à Johnson que si les deux ouvrages n'avaient pas paru à quelques jours d'intervalle, la possibilité de plagiat étant de ce fait écartée faute de temps matériel, il aurait été impossible de nier que le second paru aurait été copié sur le premier. Les deux hommes étaient éloignés d'une distance énorme et la mer les séparait. Post-scriptum. Dans le numéro de Atlantique de juin 1882, Mr. John Finke fait allusion à la coïncidence Darwin et Wallace, coïncidence souvent citée, et s'exprime ainsi. Je veux parler de la circonstance imprévue qui décida M. Darwin en 1859 à rompre le silence et à composer les origines des espèces. Le succès extraordinaire de son livre, en même temps que cette circonstance particulière, servit à démontrer combien l'esprit humain était mûr pour entendre traiter les grandes questions soulevées par M. Darwin. En 1858, M. Wallas, qui était plongé dans l'étude de l'archipel Mahiley, envoya à M. Darwin, comme à l'homme le plus à même de le comprendre, l'esquisse d'une théorie identiquement pareille à celle que préparait M. Darwin depuis si longtemps. La même suite d'observations et de conclusions qui avait amené M. Darwin à la découverte de la sélection naturelle et de ses grandes conséquences venait également de conduire M. Wallace au seuil de la même découverte. Seulement, dans l'esprit de M. Wallace, la théorie n'était pas poussée aussi loin que dans l'esprit de M. Darwin. Et au cours de la préface de son charmant livre sur la sélection naturelle, M. Wallace reconnaît, avec une rare modestie et une grande franchise, que sa propre découverte, bien qu'elle ait une valeur incontestable, est largement surpassée en intérêt et en force par celle de M. Darwin. C'est parfaitement vrai, et M. Wallace a si bien travaillé à l'illustration future de leur théorie qu'il peut être très satisfait d'avoir la seconde place dans la propagation de cette thèse. La coïncidence, cependant, n'en reste pas moins remarquable. Quand on compare les conclusions de M. Wallace et celles de M. Darwin, mais quand on y réfléchit, des coïncidences de ce genre ne sont pas surprenantes dans l'histoire des découvertes scientifiques. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles se produisent de temps à autre. Il suffit de se rappeler, en effet, qu'une découverte notoire se rapporte toujours à une question dont l'étude absorbe les grands esprits du monde entier. C'est ce qui arriva au moment de la découverte du calcul différentiel et de la planète Neptune. Il en fut ainsi lors de la lecture des hiéroglyphes égyptiens et de la théorie ondulatoire de la lumière. Le même fait eut lieu jusqu'à un certain point, au moment de l'introduction de nouveaux principes de physique, de la découverte de l'équivalent mécanique, de la chaleur et de la corrélation des forces. De même pour l'intervention du télégraphe électrique et la découverte du spectre de l'analyse. Il n'y a donc rien là d'extraordinaire, ce que le fait se soit reproduit pour la doctrine de l'origine des espèces par la sélection naturelle. On attribue ces coïncidences au fait que ces graves questions, par leur origine et leur nature, ont préoccupé à cette époque tous les grands esprits du monde entier. Je crois plutôt que dans chacune de ces découvertes, un seul homme télégraphie mentalement aux autres savants de l'univers. Et maintenant j'arrive à une énigme. Comment se fait-il que des objets inanimés puissent impressionner un esprit? Le fait se produit, j'ajoute entre parenthèses qu'il se produit constamment. Je vous cite l'exemple d'une réponse claire et détaillée à un télégramme qui n'est pas encore arrivé à destination. Ceci se produit lorsque votre dépêche a été envoyée mentalement d'un esprit à l'autre avant de passer par la voie lente du fil électrique. Vous avez dû constater ce fait souvent dans votre existence. Mais revenons aux objets inanimés. Dans les expériences d'extralucidité non professionnelle pratiquées par la société psychique, on bande les yeux du médecin, puis on met dans sa main un objet ayant touché la personne ou ayant été porté par elle. Immédiatement, le médium dépeint la personne et finit par le récit de quelque événement ou détail auquel l'objet en question a été mêlé. Si une chose inanimée peut impressionner et instruire l'esprit du médium, rien n'empêche qu'elle ait la même vertu dans un domaine de télégraphie mentale. Un jour, une dame de l'Ouest m'écrivit que son fils venait à New York pour 3 semaines, qu'il me ferait une visite, et elle me donna son adresse. J'égarai la lettre et les 3 semaines s'écoulèrent sans que j'y pensasse. Puis un remords subit m'envahit et je me hâtai d'écrire à la dame pour lui demander l'adresse perdue. Mais, après mûre réflexion, je compris que l'irruption subite de ce souvenir dans mon cerveau n'était pas un pur accident, et j'ajoutai un post-scriptum à ma lettre, annonçant que sûrement j'aurais une lettre de son fils dans la soirée. Effectivement, je la reçus. La lettre était arrivée au bureau de poste, mais ne m'avait pas encore été distribuée, et cependant, j'avais subi son influence. Oh, j'ai fait tellement d'expériences de ce genre, une douzaine au moins, que j'ai actuellement acquis la conviction que les objets n'agissent pas seulement sur les voyants pour les guider, mais qu'ils prêtent encore leur énergie à la télégraphie mentale. Je ne sais trop à quelle catégorie appartient le fait auquel j'arrive maintenant. Je l'ai extrait d'un journal local il y a 6 ou 8 ans, et je garantis l'authenticité des détails qui s'y rapportent, car l'histoire m'a été racontée dans les mêmes termes par une des 2 personnes intéressées, un pasteur de Hartford, au moment même où cette chose étrange se passait. Une coïncidence remarquable. Les coïncidences bizarres servent de thème aux histoires les plus intéressantes et aux études les plus curieuses. Personne ne peut les expliquer, mais chacun les constate lorsqu'elles se sont produites. Celle que je vais relater constitue une des plus frappantes et des plus véridiques qui se soient produites dans cette ville. Au moment de la construction d'une des plus belles résidences de Hartford, un peintre de la ville fournit la tapisserie de certaines pièces et s'engagea en même temps à la poser. On calcula mal les dimensions d'une des pièces et au dernier moment, on se trouva à court d'un rouleau de papier. Le peintre demanda un sursis pour le faire venir de la fabrique. Celle-ci répondit qu'il ne lui en restait plus et qu'on avait détruit les planches originales. Elle possédait cependant une liste des marchands auxquels elle avait fourni ce papier. En leur écrivant à tous, on finirait par se procurer un rouleau. Cela demanderait une quinzaine de jours, mais on trouverait certainement ce qu'on désirait. Au bout de ce temps, arriva une lettre disant qu'à leur grand étonnement, il n'existait plus un rouleau de papier. On demanda à la fabrique un nouveau sursis, disant qu'on allait écrire au client particulier de la maison et que certainement l'un d'eux céderait le rouleau désiré. Mais, nouvelle surprise, il fut impossible de se procurer le moindre bout de ce papier. Un grand laps de temps s'était écoulé et il devenait inutile d'attendre davantage. Le fournisseur s'était engagé à tapisser cette pièce. Pour lui, la seule façon de s'en tirer était d'arracher le papier déjà posé et d'en coller un autre. À cet effet, un ouvrier fut envoyé pour ôter le papier. Ses outils étaient prêts, il allait se mettre à l'œuvre sous la direction du propriétaire, lorsque celui-ci fut appelé par un domestique. Quelqu'un demandait l'autorisation de visiter la maison, et avant de répondre, le domestique avait cru bon de consulter son maître. Cette visite inopinée avait, pendant quelques instants, interrompu les préparatifs de l'ouvrier peintre. Le propriétaire alla recevoir l'étranger et consentit à lui faire visiter la maison. Mais il lui demanda la permission de s'arrêter pour donner des ordres à l'ouvrier. Chemin faisant, il raconta la singulière aventure du papier. Ils entrèrent ensemble dans la pièce. Le premier mot de l'étranger en apercevant le papier fut « Mais j'ai identiquement le même papier dans une des chambres de ma maison et il m'en reste un rouleau que je mets bien volontiers à votre disposition. » Quelques jours après, le mur était tapissé du papier choisi dès le début. Si le propriétaire n'avait pas été chez lui, l'étranger n'aurait pas visité la maison. En tout cas, s'il était venu 24 heures plus tard et si on ne lui avait pas raconté l'aventure par le plus grand des hasards, c'en était fait du fameux papier. L'enchaînement de toutes les circonstances est très remarquable. Et je puis affirmer, sans trop m'avancer, que cette histoire ne résulte pas d'un pur hasard. Un incident qui m'est arrivé l'autre jour vient de me revenir à l'esprit. Je le relate aujourd'hui et le repêche à cette occasion des profondeurs poussiéreuses de mon bureau. Une dame me posa à brûle-pourpoint cette question. « Avez-vous jamais eu une vision à l'état de veille ?» J'allais répondre sans hésiter, lorsque les derniers mots de cette question me firent réfléchir en éveillant un doute dans mon esprit. Cette dame ne pouvait pas deviner la portée de ces paroles qui m'ont peu à peu amené à éclaircir un mystère qui m'avait beaucoup intrigué. Vous allez en juger par vous-même dans quelques instants. Depuis que la Société anglaise des recherches psychiques a commencé à s'occuper d'histoires de revenants, de maisons hantées, d'apparitions de vivants et de morts, j'ai lu ces articles avec avidité et une grande régularité. La question que vous pose le plus fréquemment un voyant à l'état de veille est celle-ci. Pouvez-vous affirmer que vous étiez éveillé à tel moment ? Si la personne interrogée ne peut pas répondre avec assurance, cela suffit pour jeter un doute sur la véracité de son récit. Mais si elle affirme avoir été éveillée et donne des preuves palpables à l'appui, on accorde généralement une certaine foi à son histoire. Le commun des mortels n'agit pas autrement, et c'est d'ailleurs ainsi que je procédais jusqu'au moment où l'autre jour cette dame m'a posé la question que je viens de vous soumettre. Ce point d'interrogation me donna à penser et m'amena à conclure qu'on peut être endormi, ou tout au moins inconscient, pendant un certain temps, sans s'en apercevoir, et sans avoir perçu nettement ce qui s'est passé à ce moment. Un cas mémorable me revient à l'esprit. Il y a un an, je me tenais un matin sous le porche, lorsque je vis un homme s'avancer dans ma direction. C'était un étranger. Je comptais bien qu'il sonnerait et entrerait dans la maison sans s'arrêter pour me parler. Il lui fallait pour cela passer devant moi par la grande porte. Pour éviter qu'il m'adresse la parole, je pris moi-même l'air d'un étranger. Cela réussit quelquefois. Je vis cet homme très nettement au moment où il était à 10 pas de la porte et à 25 de moi, puis subitement, il disparut. Je demeurai aussi médusé que si j'avais vu une église s'éclipser en un clin d'œil pour faire place à un terrain vague. J'étais ravi de ce phénomène, car à n'en pas douter, je venais d'assister à une apparition. Je l'avais vu de mes propres yeux vus et au grand jour. Je me promis de rendre compte à la société. Je courus à l'endroit où j'avais d'abord vu le spectre, puis à l'autre bout du porche et regardai tout autour de moi. J'acquis la certitude absolue que je me trouvais bien en présence d'une apparition. Il ne me restait plus qu'à consigner le fait pendant qu'il était encore frais à ma mémoire. Ravi de ma découverte, je me dirigeai vers la maison. Lorsque je pénétrai dans le vestibule, mon cœur cessa de battre et ma respiration s'arrêta. Je vis l'homme qui m'était apparu, assis sur une chaise, seul, aussi calme et aussi paisible que s'il était installé là pour un temps indéfini. L'ébahissement m'empêcha de parler. Je me ravisai et lui demandai « Êtes-vous entré par cette porte ?»«
Oui. »«
Avez-vous ouvert la porte vous-même ou avez-vous sonné ?»«
J'ai sonné et le nègre est venu m'ouvrir. »
Je pensais en moi-même, c'est bien étonnant. Il faut à Georges 2 minutes pour répondre à la porte lorsqu'il se presse. Et je ne l'ai jamais vu se dépêcher. Mais comment cet homme est-il resté 2 minutes à la porte, à 7 pas de moi, sans que je l'aperçoive? Et sans la question de la dame, avez-vous eu une vision à l'état de veille? J'aurais cherché jusqu'à ma mort la solution de cette énigme. Tout s'explique maintenant. Évidemment, ce jour-là, j'ai été endormi 60 secondes, ou du moins inconscient, sans m'en douter. Dans cet intervalle, l'homme a passé près de moi, sonné, attendu là, puis est entré et a fermé la porte. Je ne l'ai pas vu, pas plus que je l'ai entendu la porte se fermer. Si, pendant cette minute d'absence mentale, il s'était caché dans la cave, il avait largement le temps de le faire. J'aurais fait part de cette aventure à la Société des Recherches, et en l'amplifiant, j'aurais crié au miracle. La force déployée par 32 réunis ne m'aurait pas ôté de la tête que j'étais un privilégié de ce monde et que je venais d'avoir ma vision à l'état de veille. Et maintenant, comment prouver que j'étais conscient ou non? La chose me paraît impossible, et personne n'a encore résolu ce problème. Je compte sur un rêve pour trouver la clé de ce mystère.